Cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard, le 27 juin 1991.
Pouvez-vous expliciter ce qu'est la recherche du comment de la personne humaine, sur quoi cela aboutit? Oui, le comment de la personne humaine, c'est le comment de son être, de son exister. Comment dans l'homme dont j'ai l'expérience, l'être nous est donné de la manière la plus parfaite. Toute l'analyse qu'on a faite de la substance et de l'acte et la propriété de l'unité se trouve parfaitement réalisée. Du moins, se trouve réalisée de la manière la plus parfaite dans l'homme. Puisque toutes les autres réalités sont de fait au plan métaphysique inférieur. Seul l'homme a une autonomie parfaite dans l'ordre de son exister. Et il en a conscience. Et il peut choisir sa finalité, son bonheur. Son bonheur lui est d'une certaine manière imposé par sa nature. Il doit le découvrir. Il le choisit. Alors c'est là, dans le choix, que le point de vue de la personne et de la nature se trouve uni. Et c'est la métaphysique de la personne qui nous permet de comprendre que cette opposition qu'on fait entre une morale de la nature et une morale de la personne n'a pas de signification. Et au fond, ceux qui opposent morale de la nature et morale de la personne n'ont pas saisi ce qu'est la personne au niveau métaphysique. C'est pour ça que c'est si important d'introduire au terme de la métaphysique, l'étude du comment de la personne humaine. Et la scolastique n'a pas mis la personne dans la métaphysique. De fait. Et je crois que c'est ça qui a fait que la féminologie a pris une telle importance. Parce qu'elle est apparue comme explicitant quelque chose que la scolastique thomiste ne pouvait pas expliciter. J'ai très fort senti ça à Fribourg, moi. C'était un bon père de Solesmes qui était venu passer 2 ans à Fribourg. Et c'était les années où je faisais l'hiver au Solchoir et l'été à Fribourg. Donc je l'ai connu quand je suis arrivé après Pâques. Et ce bon bénédictin qui avait reçu une étude classique, très classique, celle de Solesmes, au point de vue intellectuel, au point de vue thomiste, était en train de devenir disciple de Husserl. À pose ce problème de la personne. Alors, quand je suis arrivé, très gentiment, il s'est présenté comme venant de Solesmes et Thomiste, mais alors avec ce très gros problème, en disant au fond la personne, quel grand problème d'aujourd'hui, seul a fait le flipper parler. Alors je l'ai secoué très très fort en lui disant, mais pas du tout, vous êtes en train de perdre votre vocation contemplative. Il m'a regardé. Oui, si vous entrez dans la fumée du seul, vous perdez votre vocation contemplative. La métaphysique est là pour être gardienne de votre vocation contemplative. Alors j'ai essayé de lui faire comprendre que si l'entrée dans le vécu de la personne, c'était fini de sa contemplation. Mais j'ai très très bien compris, de fait, voyez, cette lacune terrible qu'il y avait à la scolastique de faire que la personne ait été restée en dehors. D'où on comprend très bien en théologie, théologie de la nature, théologie de la personne. Et la théologie de la personne se développe dans une théologie qui se sert d'affémologie. Or, si vous regardez attentivement Thomas d'Aquin, surtout dans son étude du Dépendentia sur la personne, vous voyez que la définition de la personne est au niveau métaphysique. Suarez de son temps a regardé uniquement l'être, n'a pas été jusqu'à la personne. Et sa position, du reste, ne pouvait pas atteindre la personne, puisqu'il partait de l'idée d'être. Alors, je crois que un des aspects très importants pour nous, c'est de lutter contre Suarez en respectant le père jésuite, mais en luttant contre la métaphysique suarezienne. Oui, parce que s'il doit être vénérable, on le respectera encore plus. Mais on doit lutter contre cette métaphysique de l'idée d'être fini et infini, qui est de l'ontologisme pur et simple, et qui était, au fond, la source, indirectement, c'est bien évident, de l'idéologie athée, des idéologies athées. Oui, l'ontologisme de droite étant source indirecte de l'ontologisme de gauche. Ça, faut bien comprendre ça, parce que c'est un des problèmes fonciers de notre monde d'aujourd'hui, au plan philosophique. Suarez ne pouvait pas introduire une métaphysique de la personne. Wolf, pas de métaphysique de la personne. Et dans la tradition dite thomiste, qui est en réalité une tradition suarezienne, il n'y a pas... La personne n'est pas introduite en métaphysique. Alors, je crois que si on reprend une métaphysique saine à partir du jugement d'existence, on peut réintroduire la personne en voyant le lien entre le « ceci est » et « je suis ». Le « je suis » ne permet pas d'avoir l'intuition de l'être. Quand vous avez le « ceci est », vous montrez bien que le « ceci » peut varier. Quand vous dites « je suis », vous montrez bien que le « je » ne varie pas. Facile à comprendre. Le « ceci », c'est la vache, c'est la table, c'est le caillou, votre prochain, c'est ça, ceci. C'est votre corps. vous voulez. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a l'intuition de l'être. L'intuition trahit ça. Qui est en réalité pas l'intuition de l'être, mais l'intuition du rapport. Il y a quelque chose de commun. La vache existe. Raïssa existe. La table existe. Jacques existe. Il y a quelque chose de commun. Il y a la relation. On a toujours intuition d'une relation. Dès que quelqu'un parle d'intuition, cherchez la relation. Tandis que l'expérience fait toucher la réalité dans son absolu. Pour les mathématiques, c'est très remarquable. J'allais presque dire que c'est la métaphysique de la relation, les mathématiques. Vous voyez dans quel sens ? C'est parce que les relations peuvent être aussi bien relations réelles, relations de raison. Ça qui est admirable. Alors, table tournante. Les mathématiques peuvent conduire à une métaphysique réaliste. Les mathématiques peuvent conduire à la dialectique hegelienne. Les mathématiques peuvent conduire à Husserl. C'est un matheux. Et vous restez dans le vécu, relation de raison. Ça, c'est le ceci. Dans le je suis, c'est moi, je suis un. Je suis. Je peux pas dire tu es. Le je ne tolère pas le tu. Parce que c'est évident que toi, tu n'es pas moi. Tandis que le ceci peut regarder n'importe quoi. Ça, c'est très très important pour saisir ces deux affirmations de l'exister. Et c'est par là qu'on intègre, vous voyez, ce qu'il peut y avoir d'intéressant dans cette subjectivité métaphysique de Descartes. Cogito ergo sum. Oui. Je réhabilite le ergo sum dans le je suis. Mais je le réhabilite à partir du ceci. Et non pas à partir du cogito. Petite erreur, petite confusion. Confondre ceci est avec cogito. Le ceci est me conduit à je suis. Tandis que le cogito ne me conduit pas à je suis. Bien réfléchir là-dessus. Parce qu'une fois que vous avez bien compris ça, vous ne pouvez plus tomber dans ce piège. Et vous comprenez que le je suis, puisque dans le je suis, l'être est lié au je, tandis que dans le ceci est, l'être peut se distinguer formellement du je suis. Dans le je suis, l'être ne se distingue plus du je. Donc l'être est saisi dans le vécu. Parce que l'être est vécu dans le je. Vous vivez votre être. Du moins, j'espère. Parce que si vous ne vivez pas votre être, vous dormez. Quand vous êtes éveillé, vous vivez votre être. Et vous ne pouvez pas changer le jeu. C'est intimement lié. Alors ça vous fait comprendre le comment de l'être. Le comment de l'être, c'est le jeu dans l'être. Parce que vous n'avez quand même pas le toupet de dire, quand vous dites « je suis », regardez-moi bien, vous voyez l'être. C'est Jean-Jacques. Et là, c'est pas Jean-Jacques, c'est Descartes. Parce que Jean-Jacques dit, regardez-moi bien, je suis l'homme. Et Descartes dit, regardez-moi bien, je suis l'être. saisir ça, c'est important. Tandis que si je suis conscient que je ne suis qu'une modalité de l'être, c'est déjà pas si mal. Que, regardez-moi bien, l'être en moi se porte bien. C'est déjà quelque chose de dire ça. En moi, l'être se porte bien. En toi, je sais pas. Je le respecte. Mais en moi, il se porte bien. Puisque je peux dire je suis. Oui. Alors là, c'est le comment de l'être. Comme en philosophie du vivant, vous saisissez le comment du vivant. Et le comment du vivant réintroduit toute la dimension du devenir et de la croissance de la vie. L'anthropologie. L'anthropologie est au niveau de tout le devenir de la personne humaine. Tandis que le comment de l'être n'est pas l'anthropologie de l'être. C'est-à-dire, vous ne voyez pas le devenir du je suis. Le je suis, dans son originalité propre, ne tolère pas le changement. Et c'est ce que Husserl a très bien saisi, ça. Quand il cherche à se comprendre ce que c'est que la substance, ce que c'est que la personne, il voit que c'est justement ce qui demeure. La déesse qui demeure. Ça, il l'a saisi. Il y a quelque chose de permanent en vous. Première fois, vous avez dit « je suis ». Et maintenant, vous dites encore « je suis ». C'est toujours vous. Dans votre substance, vous n'avez pas changé. Et dans votre acte d'être, vous n'avez pas changé. Et c'est peut-être le « je suis » qui permettrait, quand on a vu hier à propos de la mort... Parce que j'ai oublié de vous parler, aujourd'hui c'est intéressant, de la métapsychose, ou de dire est-ce que de fait, il n'y a pas possibilité de comprendre un changement. Vous voyez, la mort, est-ce que je ne peux pas me rattraper en étant, en vivant dans un autre corps? C'est le je suis qui m'empêche de dire ça. Oui, je voulais vous le dire hier. Je crois que c'est important parce qu'aujourd'hui, ça redevient un problème constant. Les gens vous reposent au problème. Alors vous devez pouvoir répondre philosophiquement que c'est impossible, que c'est une erreur. Oui. C'est une manière, si vous voulez, d'éviter le problème de l'immortalité de l'âme au moment d'abord. On entre dans un autre individu. J'en ai pas beaucoup l'expérience, mais on entre dans un autre individu. Bon. Alors, continuons cette petite révision importante. J'ai insisté sur le point de départ, sur cette méta-expérience du ceci est, qui n'est pas une expérience au sens fort, et qui est une méta-expérience. Vous voyez ? Puisque c'est au-delà du ceci. C'est « est » que je mets en pleine lumière. Alors, c'est intéressant aussi pour montrer que le jugement d'existence comme tel est au-delà de la distinction si importante expérience interne, expérience externe. Mais que l'expérience externe seule permet de sauvegarder l'absolu du jugement d'existence. Puisque dans toute expérience interne, le « je suis » est présent. J'aime. Alors vous ne pouvez pas abstraire, séparer l'être du « je ». Tandis que vous pouvez le faire par rapport à ceci. Ça, c'est tout. aussi très important. À cause, vous voyez, de la féminologie d'aujourd'hui, où il y a un tel accent sur le vécu qu'on a beaucoup de peine de reconnaître que l'expérience qui s'appuie sur les sens externes va plus loin que l'expérience interne. Autrement dit, l'expérience au sens fort ne peut être qu'une expérience qui se sert des sens externes. C'est pour ça que vous êtes obligé de dire l'expérience interne. Et les savants sont très sensibles à ça. C'était ce que Marois m'avait dit. Au concile, je n'ai trouvé le dialogue avec aucun théologien. C'est un savant qui dit ça, un biologiste. Parce que tous partaient de l'expérience interne, du vécu, qui pour moi, disait-il, n'est pas scientifique. Alors c'est intéressant de voir que la science, là, vient au secours de l'objectivité de la philosophie. S'en servir. Et il y a le témoignage des savants. Quand ils sont en face d'un fémologue, d'un philosophe qui prétend que toute sa philosophie repose sur le vécu, il se coupe complètement de la science. Ah, c'est pas normal. Le philosophe doit reconnaître que la science reste une qualité humaine. Oui. Le philosophe réaliste doit défendre la science face à Heidegger. C'est intéressant d'avoir une position, oui, philosophique qui nous permet de défendre la science par rapport à Heidegger. Parce que pour Heidegger, la science ne regarde que les étants. Et les étants n'ont rien à voir avec l'être. Alors que nous disons que nous, la science regarde le comment et le comment existe. Et que le comment, je dois le récupérer en philosophie. Et quand je récupère le comment en philosophie, forcément, j'ai affaire au savant. Puisque le savant peut m'aider quelquefois à mieux comprendre ce comment. Mais c'est là où, dans le je suis, on s'affronte au psychologue. Le moi du psychologue et le je suis du philosophe. C'est là l'affrontement. Un affrontement, comprenez bien, de rivalité, mais de saine rivalité. Il suffit de se respecter. Le philosophe pénétrera plus loin, mais devra abandonner une description beaucoup plus riche du psychologue. Le psychologue, regardant le moi psychologique, pourra donner une description beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus riche de la personne que le philosophe qui lui cherchera la personne à partir du je suis, qui sera beaucoup plus pénétrant mais beaucoup moins descriptif. C'est important, ces choses-là, parce que ce sont des problèmes constants aujourd'hui. Alors, il ne s'agit pas d'être rival comme chien et chat, il s'agit d'être rival comme coopérant dans la recherche de la vérité. Le philosophe n'a pas le droit d'abandonner des expériences internes riches, mais il doit les mettre à leur place et saisir que ces expériences internes se situent à tel endroit et ont quelque chose d'important pour nous. Mais ne méprisons pas la recherche du comment, mais réintégrons la recherche du comment dans la philosophie. Vous voyez, la scolastique, c'était resté uniquement au tiesti et aux définitions. À ce moment-là, le comment ne peut pas être réintégré. Le comment scientifique. Tandis que si j'ai le souci de rechercher le comment philosophique, au niveau métaphysique, au niveau de la philosophie du vivant, au niveau de la philosophie de la matière, je peux réintégrer le comment scientifique sans dire que la philosophie dépend des conclusions scientifiques. Très délicat, ces problèmes-là, mais c'est très important. Il faut y réfléchir très vite. Alors, après l'expérience, tout de suite interrogation. Qu'est-ce? Alors, dans votre repasse, essayez de bien comprendre la signification de l'interrogation du pourquoi, du TST, et l'interrogation du comment. C'est aussi très important. Et ceci, de le saisir à partir de l'interrogation. Et dans l'interrogation. C'est très important d'avoir une conscience très nette de l'expérience, de l'intuition et de l'interrogation. Ça, tous, on peut en avoir l'expérience. Il faut en avoir l'expérience pour bien distinguer. Si vous n'avez pas l'expérience, pas la peine de continuer. Il faut avoir l'expérience, on peut tous avoir l'expérience de l'interrogation. Qu'est-ce que c'est que l'interrogation? Et cette parole si importante de Merleau-Ponty, l'idéaliste n'interroge plus. Et cette saine opposition de Merleau-Ponty en disant « Je n'aime pas de dialoguer avec quelqu'un qui n'interroge plus. » Et c'est pour ça que je n'aime pas de dialoguer avec un croyant parce qu'il n'interroge plus. Si Merleau-Ponty avait dialogué avec un croyant intelligent, il aurait vu que la foi ne supprime pas l'interrogation. Puisque nous reconnaissons qu'il y a dans l'adhésion de foi la possibilité du cogitare, donc de l'interrogation. Très très important donc pour nous distinguer expérience, intuition, interrogation, adhésion. Et avoir très très nettement la distinction. Et ceci, c'est capital pour ce que c'est que la théologie. La théologie va interroger à l'intérieur de l'adhésion, sans supprimer l'adhésion. L'interrogation n'est pas une mise en suspicion. L'interrogation n'est pas critique. L'interrogation est de l'ordre de la vie de l'intelligence. Donc ne confondons pas ce qui est de la vie de l'intelligence et l'aspect critique. L'aspect critique implique une réflexion sur ce qui est connu. L'interrogation porte sur ce qui est. Donc, vous voyez bien la distinction. Hein. Ça, saisissez le bien. Et votre première année de philosophie vous permettrait de distinguer ça. Ce serait déjà beaucoup. Parce que c'est le début. Et ce que dit Aristote est tellement vrai. Les petites confusions du début amènent d'énormes distinctions. La source du Rhin et la source du Rhône sont très proches. Et quand vous voyez le développement du Rhône et le développement du Rhin, vous voyez que ce sont deux fleuves tout à fait différents. Et leurs sources sont très proches. L'intuition et l'interrogation, c'est très proche. L'intuition et l'expérience, c'est très proche. L'adhésion de foi et le cogitare à l'intérieur de la foi coexistent. Tandis que le soupçon est de l'ordre critique. Empoisonne tout aujourd'hui. La philosophie du soupçon, comme on dit. Ça empoisonne tout. l'intelligence n'est pas soupçonneuse en premier lieu. C'est votre cœur qui est soupçonneux parce qu'il n'a pas de confiance. Il manque de confiance. Alors il soupçonne. Vous voyez, chat échaudé. Mais on a un cœur de chat échaudé. C'est ça le soupçon. Alors on se met à avoir peur. N'ayez pas peur. Et avancez. C'est très important, vous voyez, de saisir ces choses-là à leur racine. Parce qu'autrement, on n'avance plus. Et alors, quand on n'avance plus, on critique les autres. Pourquoi la critique est-elle si forte? Parce qu'on n'a pas sa nourriture. Il n'y a plus de métaphysique. La métaphysique, progressivement, nous aide à ne pas soupçonner le voisin. Parce qu'on se nourrit de l'être. Et si on se nourrit de l'être, on se nourrit de biftec. Puisque l'être nous conduit à la substance. Et dès qu'on se nourrit de substance, on n'a plus du tout envie de soupçonner l'autre. On a envie de regarder la réalité. C'est un remède merveilleux, vous savez. C'est le grand remède de la métaphysique. Pour supprimer tous ces soupçons. Pour supprimer tous ces regards indiscrets vis-à-vis du voisin. Si on se regardait moins, on s'aimerait beaucoup plus. Et on avancerait. On aurait des ailes. Oui. Tandis que dès qu'on se regarde, ben c'est le panier de crabe. Toujours. Vous voyez, voilà, une espèce d'autocritique de nous-mêmes pour saisir tout ce qu'il y a en nous de maladif. Et la grande maladie, c'est le primat de la critique. C'est la grande maladie, ça. C'est le primat de la négation sur l'affirmation. Et le primat de la négation sur l'affirmation conduit au primat de la critique. Parce que vous ne pouvez regarder positivement la négation qu'au point de vue critique. Oui. Alors vous voyez bien le symbolisme, le religieux, chrétien, de l'Apocalypse. La bête, de la blessure mortelle, et qui revit. Elle revit par la critique. Très important de saisir ces choses-là. C'est le climat dans lequel on est. Alors on doit assainir le climat de toutes les fièvres paludiennes métaphysiques. Et la grande fièvre paludienne métaphysique, c'est le primat de la critique sur l'affirmation, sur la métaphysique. Alors vous stérilisez votre intelligence par le primat de la critique. Alors si on met le primat de la critique, on introduit le primat des sciences sur la métaphysique. Alors que la philosophie a un primat de santé sur les mathématiques et sur la science. C'est pour ça que je peux critiquer les mathématiques. Parce que j'ai un droit d'aîné sur les mathématiques. Pas génétiquement, mais selon la nature. Et le métaphysicien, qui est un vrai métaphysicien, le reconnaîtra. Et le mathématicien acceptera ça. Alors que si vous mettez un primat sur les mathématiques par rapport à la métaphysique, c'est la porte ouverte au primat de la négation. Oui. Alors, comprenons l'interrogation. J'interroge. Qu'est-ce que c'est que l'être ? En ayant cette audace de bien comprendre que l'être peut être regardé pour lui-même dans le ceci est, tandis que l'être ne peut pas être regardé pour lui-même dans l'affirmation je suis. Vous pouvez tous comprendre ça. Et au moment où vous le comprenez, vous vous séparez de la fumologie. Donc vous assainissez le terrain. C'est très très important ça. Hein? Parce que tant qu'on n'est pas sorti de ça, eh bien, on aura nécessairement une impossibilité d'entrer en métaphysique. Impossibilité. Alors on restera avec des pieds remplis de boue. Et on regardera la boue du voisin. En voyant qu'elle est plus abondante que la nôtre. Ça n'ira pas. Il faut pouvoir comprendre l'interrogation qui porte. Ceci est, qu'est-ce que c'est que l'être? Je thématise l'être en mettant l'infinitif. Alors qu'ici, c'est le présent. Quand vous interrogez dans ceci être, qu'est-ce que c'est que l'être? Vous voyez que l'interrogation, alors, c'est là où il faut étudier ce que c'est que l'interrogation. L'interrogation est ce procédé intellectuel qui fait passer le verbe du présent à l'infinitif. C'est quand même pas mal. Ceci est, qu'est-ce que c'est que l'être? Et je reste dans l'être. Mais dans l'être, l'interrogation est capable de faire de passer du présent à l'infinitif. Ce n'est pas un regard critique. C'est l'avidité de l'intelligence. C'est l'appétit de l'intelligence qui est capable de faire ça. Et je suis là en présence d'une abstraction. L'intellect agent va agir fortement et va me permettre de passer du présent à l'infini. Extraordinaire, ça. Oui, et ça, c'est le propre du verbe. J'abandonne le nom, ceci. Le nom implique toujours le présent. D'une certaine manière, ceci est. Évidemment, si j'enlève est du ceci, alors le ceci peut aller n'importe où. Mais quand je regarde le verbe être au présent, dans l'expérience, je le fais passer du présent à l'infinitif. Alors qu'est-ce que c'est que cette petite opération? Passer du présent à l'infinitif. Réfléchissez là-dessus. Hein. Rick, on n'a pas beaucoup réfléchi là-dessus. C'est intéressant d'y réfléchir. Comment se fait-il que vous pouvez passer du présent à l'infinitif? Vous pouvez tout de suite répondre. C'est parce que c'est le même verbe. C'est sûr. C'est le même verbe. Il a la même signification. Ce que Heidegger nierait. Et tous les néoplatoniciens avec Heidegger. C'est là où je vois que Heidegger est encore néoplatonicien. C'est le grand néoplatonicien de notre époque. C'est pour ça qu'il est poète. Pour Heidegger, ce n'est pas la même signification. L'étant et l'être. Pour moi, ça a la même signification. L'étant et l'être. Ceci est l'être. Alors, une fois que j'ai compris que ça a la même signification, je comprends qu'il y a une continuité entre l'expérience et l'interrogation. Mais il y a un changement de vitesse. Je passe du présent à l'infinitif. Alors, si je comprends que le langage est fille de la pensée, et non pas l'inverse. Le langage provient de la pensée. Donc le langage est fille de la pensée. Si je reconnais que le langage est fille de la pensée, je constate dans le langage le passage du présent à l'infinitif. correspond dans la pensée. Ça correspond dans la pensée que je suis capable de regarder le verbe pour lui-même. Le verbe présent est relatif au nom. Le verbe être n'est plus relatif au nom. Je suis donc capable de séparer, pas seulement abstraire, séparer le présent, le verbe au présent, du nom. Et pour cela, je le mets dans cette forme particulière. Je lui donne un substitut d'absolu. Je lui donne un mode absolu. Je le coupe du relatif. Et je le mets dans son absolu. Je le thématise. Oui, les modernes ont inventé ce mot-là. Il est très vieux, mais on comprend. Au point de vue critique, il s'agit de comprendre qu'est-ce que c'est que cette opération. Oui, au fond, le chirurgien fait ça tout le temps. Quand il fait l'opération du cœur ouvert, il regarde le cœur pour lui-même. Il le sépare. On sépare l'organe du tout. On le thématise. Il est relié au tout, non ? Papa ? Je le sépare. Bon, ce qu'on fait là, on peut le faire de l'être. Pourquoi pas ? Ceci est relatif à ceci. Je regarde l'être pour lui-même. Et je deviens le chirurgien de l'être. Qu'est-ce qu'il y a de fondamental dans l'être ? Le noyau fondamental qui résiste à tout, la substance. Voyez. Et c'est ça qu'on fait. On passe du présent à la vérité. Si vous ne voyez pas ça, votre métaphysique est en l'air. Et fatalement, quand la métaphysique est en l'air, elle doit se reposer. C'est fatigant d'être en l'air. Elle doit se reposer. Et elle se repose sur quoi ? Sur la pensée. Et non plus sur la réalité. Je vois très bien comment Heidegger, parce qu'il est fatigué, dit penser l'être. L'être se repose sur la pensée, sur l'esprit. Et l'être n'existe que pour l'esprit. Et que l'esprit. Et alors à ce moment-là, j'ai le néoplatonisme. Tandis que si je suis très conscient d'interrogation, je dis pas du tout. Ceci est et être, il y a une continuité. Et donc l'être repose sur le ceci est. Et c'est la pensée qui fait cette opération chirurgicale de séparer l'être, de l'isoler du ceci. Je l'isole. Je peux très bien. Mais je sais que je l'isole. Mon intelligence est capable d'isoler l'être, momentanément. Et de faire opération cœur ouvert. Et je fais l'opération de l'être. Et je dis, qu'est-ce que c'est que l'être ? Le noyau fondamental. Et j'opère le scapulaire.